des écoles d'Ivry. Aujourd'hui, le 9 avril, nous avons une émission spéciale qui a été concoctée par Edith Piatzig et Yolande Sicarelli avec Sarah et Sarah, les enseignantes, pour revenir sur la semaine de la mémoire de janvier 2026. Nous commencerons par une rencontre entre les CE2, CM2 et les CM1 de l'école Torres B avec Edith Deléage-Pertunski, membre de l'Association pour la mémoire des enfants déportés juifs d'Ivry. Et ce sera une première partie autour de son parcours. À 14h15, nous évoquerons la cérémonie de fleurissement des plaques à l'école Torres à travers des lectures de textes proposées par les CE2, CM2 de l'école B. Puis, à 14h21, nous reprendrons la rencontre avec Edith Deléage-Pertunski qui s'occupera de travailler la mémoire avec les élèves. Et nous finirons l'émission à 14h35 avec la rediffusion d'un reportage sur l'écrivaine Anne Frank. Reportage qui avait été réalisé il y a quelques années par les CM2A de l'école Solomon. Bonne écoute.
La radio des écoles d'Ivry.
Je vous dis bonjour parce que aujourd'hui, parce que j'ai l'habitude de dire bonjour, mais aussi parce que aujourd'hui c'est vraiment un bon jour. Pourquoi c'est un bon jour? Parce que vous, les élèves de l'école Maurice Thorez, et puis les maîtres d'école, Sarah et Sarah, et puis je crois le directeur de votre école qui sait que nous sommes tous là et auquel nous avons dit bonjour, eh bien, nous sommes là tous aujourd'hui pour travailler. Parce que quand on est à l'école, on travaille. On travaille à apprendre, on travaille à connaître, pour ensuite bien vivre tous ensemble et pour agir tous ensemble afin de continuer à bien vivre et bien exister tous ensemble.
Edith Deléage-Pertunski de l'association pour la mémoire des enfants déportés juifs d'Ivry.
Pour commencer, pourriez-vous vous présenter pour nos auditeurs et nous raconter votre parcours aussi bien personnel que professionnel?
Je suis née le 2 janvier 1943. Ouh. J'ai 83 ans. À Villeneuve-sur-Lot, en France, ville du département du Lot-et-Garonne. C'est pas un hasard parce que mes parents, mon père qui s'appelait Israël Meyer Pertunski et ma mère qui s'appelait Chendel Frima Moser, eux étaient nés en Pologne en 1901-1902 et ils ont décidé de quitter la Pologne en 1920 1921. Pourquoi ? Parce que à ce moment-là, en Pologne, il y avait des mots, des comportements et des actes antisémites. Des mots comme sale juif pour mon père, sale youpine pour ma mère. Des comportements, les élèves dans les écoles leur jetaient des pierres dans la cour des écoles. Et puis il y avait aussi des actes antisémites. Je vous en donne un, par exemple. Le père de ma mère, donc mon grand-père, le père de ma mère était marchand de tissus. Et donc, il habitait dans un village qui s'appelait Tchorkouf. Et dans ce village, il vendait des tissus. Mais pour vendre les tissus, il fallait qu'il aille à la grande ville, près de Varsovie, qui s'appelait Lwów. Et donc, il prenait sa carriole avec des chevaux et un cocher. Il allait à la ville et puis il revenait de la ville pour aller dans son village avec ses rouleaux de tissu qu'il avait mis dans sa carriole. Mais pour revenir dans son village, il fallait qu'il traverse avec sa carriole un pont. Et là, il y avait souvent un policier du village qui lui disait « Descends de ta carriole et mets ta barbe », parce qu'il avait une longue barbe. Les juifs de l'époque avaient des longues barbes. Et mets ta barbe sur le parapet du pont. Et tac, avec un sabre, il coupait la barbe. Et il remontait dans sa carriole. Et il allait au village. Ça, c'est un acte antisémite en Pologne, à l'époque, 1920. Etc. Et donc, mon père, ma mère, qui étaient effectivement en Pologne à cette époque, et qui ont vécu ça, et qui aussi ont su que leurs parents avaient été exterminés, brûlés dans des camps d'extermination, en Pologne, à Treblinka et à Belzec. Alors, ils ont décidé de partir de la Pologne. Ils sont partis en Pologne et ils sont d'abord allés en Palestine. Pourquoi en Palestine ? Parce qu'en Palestine, qui était alors une colonie anglaise, en Palestine, il y avait des Juifs qui se réclamaient du prophète Moïse. Il y avait des musulmans qui se réclamaient du prophète Mahomet. Il y avait des chrétiens qui se réclamaient du prophète Jésus. Et il y avait aussi même des druzes, qui étaient une branche des musulmans, qui se réclamaient aussi du prophète Mahomet. Et donc, ils sont allés en Palestine. Et là, en Palestine, ma mère a travaillé comme infirmière, et puis mon père a travaillé comme maçon, et puis donc, c'était dans les années 30, 31, 32, 33, 34, et comme il disait qu'il voulait que tout le monde travaille ensemble et qu'ils ne sont pas séparés les uns des autres. Alors, à l'époque, eh bien, il y a eu, encore une fois, des policiers qui ont décidé que ceux qui venaient de Pologne, fallait les ramener en Pologne. Pourquoi ? Parce que eux, ils voulaient que tout le monde travaille ensemble. Et ça, ça n'était pas du goût, on peut dire, du gouvernement de l'époque, qui était le gouvernement d'une colonie anglaise. Ils ont été ramenés de manière différente en Pologne, et là, de là, ils sont retournés en France. Et en France, eh bien en France, ils sont arrivés en France en 1935, et là ils ont travaillé aussi encore comme infirmière, comme maçon et autres, comme couturier, etc. Et puis comme paysan, dans une ferme à Combes de Pujol, qui était une ferme dans la banlieue de Villeneuve-sur-Lot. Ils ont travaillé comme paysans, et mon père s'est engagé dans l'armée française en 1939 pour se battre avec les Français comme combattant juif étranger, pour se battre avec les Français contre les nazis. Mais qu'est-ce que ça veut dire nazi ? Eh bien, Hitler, qui disait qu'il était nazi, était convaincu que le nazisme, en allemand ça veut dire national-socialisme, était convaincu que c'était le nom d'un parti politique qui allait permettre de bien organiser la société du pays. Il était convaincu, et les nazis ont cru avec lui, ou se sont soumis à lui et ont cru avec lui, qu'il y a deux sortes d'humains. Il y a ceux de race inférieure, les juifs, les tziganes, et ceux de race supérieure, les ariens. Et donc, les nazis et ceux qui soutiennent les nazis sont convaincus que pour bien vivre dans une société, dans la société où on existe, dans la société qu'on habite, il faut éliminer tous les individus de race inférieure et il faut que ceux de race supérieure dirigent le pays. Et donc, ont été créés les camps d'extermination. Vous savez que extermination signifie mise à mort. Les camps d'extermination, c'est les camps de mise à mort des hommes, des femmes, des enfants, des bébés nés et des bébés à naître. Et vous avez appris que ces camps d'extermination qui avaient été mis en place par le gouvernement nazi, et en plus des camps d'extermination, il y avait des camps de concentration. Des camps de concentration, c'est des camps où on concentrait tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec cette politique, les résistants, et puis ceux qui ne voulaient pas vivre selon la norme, selon la façon de penser des Ariens, les homosexuels, et puis les handicapés, et puis les malades, les résistants, les homosexuels, les handicapés, les malades, ils étaient tous envoyés dans les camps de concentration. Mais ils y mouraient aussi. Ils n'étaient pas exterminés. Mais ils y mouraient de froid, de faim ou des tortures. qui leur était infligée. Entre 1940 et 1945, la France était occupée par une armée, celle du gouvernement allemand, dirigée par un dictateur, Hitler, qui s'affirmait nazi. Et en août 1942, mes parents ont été sauvés d'une rafle qui a eu lieu à Comte de Pujol. Une rafle qui a été organisée par le gouvernement Pétain, parce que vous savez que le gouvernement Pétain en France collaborait avec les nazis, et moi j'étais dans le ventre de ma mère. Et donc mes parents ont été sauvés, prévenus par un gendarme de Villeneuve-sur-Lot et aussi par une secrétaire de mairie de Villeneuve-sur-Lot qui elle aussi était infirmière. Autrement dit, je suis née grâce à ces justes qu'on appelle les justes devant les nations. Et c'est pourquoi je me suis engagée dans l'association pour la mémoire des enfants déportés juifs d'Ivry, qui s'est créée en 2003.
Semaine de la mémoire, lecture proposée par les CE2 CM2 de l'école Maurice Thorez B.
Pour cette commémoration du 27 janvier 2026, nous avons choisi des textes de Charlotte Delbault. Femme résistante pendant la guerre, déportée à Auschwitz, elle a survécu et a décidé d'écrire pour témoigner. Pour Charlotte Delbault, écrire était un combat. Un combat contre l'oubli, contre l'injustice et pour la dignité humaine. Elle s'est engagée pour que la mémoire des déportés, hommes comme femmes, ne soit jamais effacée. Elle a montré que les femmes avaient été victimes de la déportation, mais aussi des témoins et des résistantes. Dans « Aucun de nous ne reviendra », elle écrit pour ceux qui ne sont pas revenus et pour ceux qui viendront après. Les textes choisis parlent des lieux où l'horreur a eu lieu, mais aussi des lieux qui ont tout vu et qui, aujourd'hui encore, portent la mémoire de ce qui s'est passé. Nous avons choisi de mêler ces textes avec des poèmes d'enfants et d'adolescents déportés à Térésine sur le même thème. En les faisant dialoguer, nous avons voulu montrer que la mémoire se construit à plusieurs voies, que les lieux n'oublient pas et que même dans les endroits les plus sombres, des paroles ont existé et continuent de nous être confiées aujourd'hui.
Il y a des gens qui arrivent et il y a des gens qui partent.
Mais il est une gare où ceux-là qui arrivent sont justement ceux-là qui partent, une gare où ceux qui arrivent ne sont jamais arrivés, où ceux qui sont partis ne sont jamais revenus.
C'est à cette gare qu'ils arrivent, qu'ils viennent de n'importe où. Ils y arrivent après des jours et après des nuits ayant traversé des pays entiers.
Ils y arrivent avec les enfants, même les petits, qui ne devraient pas être du voyage. Ils ont emporté les enfants parce qu'on ne se sépare pas des enfants pour ce voyage-là. Tous ont emporté leur vie. C'était surtout sa vie qu'il fallait prendre avec soi.
Ils voudraient savoir où ils sont. Ils ne savent pas que c'est ici, le centre de l'Europe. Ils cherchent la plaque de la gare.
C'est une gare qui n'a pas de nom.
Une gare qui, pour eux, n'aura jamais de nom.
Par cinq, ils prennent la rue de l'arrivée. C'est la rue du départ. Ils ne le savent pas, c'est la rue qu'on ne prend qu'une fois.
Ils marchent bien en ordre, qu'on ne puisse rien leur reprocher. Ils arrivent à une bâtisse et ils soupirent. Enfin, ils sont arrivés.
Et quand on crie aux femmes de se déshabiller, elles déshabillent les enfants d'abord, en prenant garde de ne pas les réveiller tout à fait. Après des jours et après des nuits de voyage, ils sont nerveux, ils grognent. et elle commence à se déshabiller devant les enfants. Tant pis, et quand on leur donne à chacune une serviette, elle s'inquiète, est-ce que la douche sera chaude, parce que les enfants prendront froid. Et quand les hommes, par une autre porte, entrent dans la salle de douche, nus aussi, elle cache les enfants contre elle.
Et peut-être alors, tous comprennent-ils?
Et cela ne sert de rien qu'ils comprennent maintenant, puisqu'ils ne peuvent le dire à ceux qui attendent sur le quai.
Et tout le jour, et toute la nuit, et tous les jours, et toutes les nuits, les cheminées fument avec ce combustible de tous les pays d'Europe.
Et qu'on ne craigne pas d'en manquer, il arrive des trains.
Et des trains, il en arrive tous les jours, et toutes les nuits, toutes les heures, de tous les jours, et de toutes les nuits.
The garden. A little garden, fragrant and full of roses. The path is narrow, and the little boy walks along it. A little boy, a sweet boy, like that growing blossom. When the blossom comes to bloom, the little boy will be no more.
Le jardin. Un petit jardin, parfumé et plein de roses, le sentier étroit, et un petit garçon s'y promène. Un petit garçon, un doux garçon, comme une rose qui grandit. Quand la fleur s'ouvrira, le garçon ne sera plus.
The butterfly. The last, the very last, so richly, brightly, dazzlingly yellow. It flew so high, it went away, I'm sure, because it wished to kiss the world goodbye. Only I never saw another butterfly. Butterflies don't live here, in the ghetto.
Le papillon, le dernier, vraiment le dernier, d'un jaune si riche, si éclatant, il volait si haut. Il est parti, j'en suis sûre, pour dire adieu au monde. Je n'ai jamais revu d'autres papillons. Les papillons ne vivent pas ici, dans le ghetto.
Pourquoi ai-je gardé la mémoire? Pourquoi cette injustice? Et de ma mémoire ne s'éveillent que des images si pauvres que les larmes viennent de désespoir. Où es-tu, ma vraie mémoire? Où es-tu, ma mémoire terrestre?
Le ciel était très bleu, d'un bleu si bleu sur les poteaux de ciment blanc et les barbelés blancs aussi. D'un bleu si bleu que le réseau des fils électriques paraissait plus blanc, plus implacable.
Ici rien n'est vert, ici rien n'est végétal, ici rien n'est vivant.
Loin au-delà des fils, le printemps voltige. Le printemps frissonne, le printemps chante.
Dans ma mémoire, pourquoi ai-je gardé la mémoire? Pourquoi avoir gardé les souvenirs des rues au pavé sonore, des filles frais du printemps sur les bancs des marchands de légumes, des flèches de soleil sur le parquet blond au réveil, les souvenirs des rires et des chapeaux, des cloches dans l'air du soir, des premières blouses et des anémones? Pourquoi ai-je gardé la mémoire?
Je ne puis retrouver le goût de ma salive. Dans ma bouche au printemps, le goût d'une tige d'herbe qu'on suce. Je ne puis retrouver l'odeur des cheveux où je le vends. Sa main rassurante et sa douceur.
Ma mémoire est plus exsangue qu'une feuille d'automne. Ma mémoire a oublié la rosée. Ma mémoire a perdu sa sève. Ma mémoire a perdu tout son sang. C'est alors que le cœur doit s'arrêter de battre. S'arrêter de battre. De battre.
Loin au-delà des barbelés, le printemps chante. Ses yeux se sont vidés.
Et nous avons perdu la mémoire.
Aucun de nous ne reviendra.
Aucun de nous n'aurait dû revenir.
One day the world will ask what we saw here, and we will be the answer.
Un jour, le monde demandera ce que nous avons vu ici, et nous serons la réponse.
Vous avez donc entendu des textes tirés du livre « Aucun de nous ne reviendra », écrit par Charlotte Delbo. Il s'agissait d'extraits du premier et du dernier chapitre. Et vous avez entendu des poèmes de Fantabras et Pavel Friedman.
Edith Déléage-Perstunski, de l'Association pour la mémoire des enfants déportés juifs d'Ivry.
Vous avez choisi d'étudier la philosophie et l'ethnologie. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous orienter vers ce domaine ?
Quand j'étais au collège et au lycée, j'adorais écouter, entendre le prof d'histoire. Et au lycée, j'adorais écouter la prof de philo. Pourquoi? Ils m'ont fait revivre ce dont j'avais le souvenir, mais dont je ne me souvenais pas tout à fait bien, dont je n'avais plus la mémoire, de l'histoire de mes parents et de mes grands-parents. Et puis, la philo, pourquoi? La philosophie, pourquoi? Parce que philosophie, ça veut dire philo, amour, sophia, la sagesse, amour de la sagesse. L'amour de la sagesse, c'est l'amour de la connaissance. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que je devienne moi aussi une enseignante qui transmet la philosophie, l'amour de la connaissance, l'amour du savoir. Je suis devenue professeure de philosophie. Et puis j'ai fait encore des études supérieures pour apprendre à connaître l'ethnologie. L'ethnologie, c'est l'étude des différentes manières, des coutumes, des façons de parler, des façons d'habiter, des façons de se vêtir, des façons d'exister, qui ne sont pas les mêmes au sud, au nord, à l'est, à l'ouest du monde.
Vous êtes très vite engagé dans la mémoire de la déportation. Pourquoi ?
La mémoire de la déportation, c'est la mémoire de l'histoire de tous ceux jugés inférieurs par ceux qui se jugent supérieurs, de tous ceux qui ont été déportés, c'est-à-dire arrachés à leur maison, à leur école, à leur quartier, à leur village, à leur ville, pour être envoyés dans des camps, pour être concentrés dans des camps de concentration, pour être finalement tué.
À Ivry, mais aussi plus largement en France et dans d'autres pays, une journée est consacrée à la mémoire génocide et à la prévention des crimes contre l'humanité le 27 janvier. Pourquoi cette date a-t-elle été choisie ?
Pourquoi autour du 27 janvier ? Parce que le 27 janvier 1945, il y a eu la libération du camp d'extermination d'Auschwitz.
Dans notre ville, des cérémonies sont organisées dans les écoles et la mairie. De nombreux événements sont également proposés, comme des conférences, débats, des projections de films, des expositions, des rencontres. La spécificité de notre ville est d'avoir choisi d'inscrire ce travail de mémoire dans la durée en consacrant une semaine entière à ces actions, la semaine de la mémoire.
Pourquoi la journée du 27 janvier est-elle devenue à Ivry une véritable semaine de la mémoire ?
Elle a été créée par la municipalité d'Ivry. La municipalité d'Ivry a décidé en 2003 de créer cette semaine de la mémoire du génocide des Juifs et des Tziganes, prévention des crimes contre l'humanité et lutte contre le racisme, l'antisémitisme et l'intolérance. Pourquoi ? Eh bien parce que les élus de l'époque, 2003, ont décidé qu'il fallait effectivement faire ce travail de mémoire, se souvenir, connaître ce qui s'est passé pour continuer de vivre ensemble, tous ensemble, non seulement les Juifs, les Tziganes, mais aussi les Arméniens, mais aussi les Tutsis, mais aussi tous ceux qui ont été victimes de génocide, tous ceux qui ont été victimes d'extermination, tous ceux qui ont été victimes de ces gouvernements qui ont effectivement décidé d'exterminer ceux qui n'étaient pas considérés comme des êtres à l'égal de ceux qui vivaient avec eux.
Nous essayons de nous engager de manière active dans la mémoire de la déportation et de comprendre ce qui s'est passé pour que cela ne se reproduise jamais. Pourriez-vous nous conseiller des livres, des films ou d'autres ressources qui pourraient nous aider à approfondir nos connaissances et notre réflexion ?
Alors, je vais vous répondre tout simplement. Au service des archives qui se trouvent en bas dans la mairie, il y a un service des archives. Eh bien, vous avez toute une série de documents sur la semaine de la mémoire. Et d'autre part, il y a des livres, des petits livres. D'abord, un petit livre qui est l'histoire d'Anne Frank. Anne Frank, que vous connaissez peut-être. Et si vous ne la connaissez pas, eh bien, vous demandez à vos enseignants, à vos animateurs, de vous l'histoire d'une petite fille qui, effectivement, a été condamnée à l'extermination. Une petite fille de votre âge. L'histoire d'Anne Frank. Et ce, en Hollande. Un écrivain qui s'appelle George Orwell et qui a imaginé ce que serait 1984. Il a écrit cela en 1942. Eh bien, ce George Orwell, il imaginait qu'en 1984, ça allait être l'horreur dans le monde. Des guerres partout. Des guerres qui annulent, des guerres qui tuent, des guerres qui annulent l'humanité. Il l'imaginait pour 1984. Une dystopie, c'est-à-dire c'est l'imagination d'une catastrophe mondiale. Eh bien, aujourd'hui, en 2026, nous sommes, à mon sens, dans une société ou dans des sociétés dans le monde qui correspondent à ce que George Orwell a pensé pour 1984, l'horreur. La guerre partout. Et il a écrit La ferme des animaux. Et ça, il l'a écrit pour les enfants. Parce que, pour le dire vite, il pensait, il sentait que les hommes sont des animaux qui aiment vivre les uns avec les autres dans une ferme et avec tous les animaux. Et avec les plantes.
Quel message vous sent-il essentiel de transmettre aujourd'hui pour que la mémoire continue de vivre et que l'histoire ne se répète pas ?
Vous avez appris que les histoires de différences entre les gens, les différences de couleur de peau, les différences de frisure du cheveu, les différences de courbure du nez, les différences dans les façons de parler, les différences dans les façons de chanter, les différences même et aussi dans les façons de prier. Eh bien, ces différences, elles ne créent pas une différence fondamentale entre des supérieurs, des humains supérieurs et des humains inférieurs qu'il faut exterminer ou faire mourir de froid et de faim. Parce qu'aujourd'hui, il y a tout autour de nous, autour de la France, des guerres. Et puis il y a aussi la guerre climatique qui tue des vivants, des animaux, des plantes. Alors, tous ensemble, aujourd'hui c'est un bon jour pour se dire que nous allons tous ensemble réagir.
Merci.
Nous vous remercions pour ce moment de partage, de réflexion et d'avoir répondu à toutes nos questions.
Nous sommes très heureux de vous avoir reçus dans notre école. Pour finir, nous voulons vous montrer la plaque de notre école.
Elle a été fleurie le 26 janvier 2026. Arrêtée par la police du gouvernement de Vichy, complice de l'occupant nazi, plus de 11 000 enfants furent déportés de France entre 1942 et 1944 et assassinés à Auschwitz parce qu'ils étaient nés juifs. 24 de ces enfants vivaient à Évry. Parmi eux, les élèves de cette école Maurice Thorez, anciennement école du Petit Givry.
Perel Modzewski, 15 ans, convoi du 20 janvier 1944. Et Régine Modzewski, 10 ans, convoi du 20 janvier 1944.
Bernard Mulger, 13 ans, convoi du 7 août 1942. Philippe Potchengay, 12 ans, convoi du 24 août 1942.
Ne les oublions jamais.
Et tout de suite, direction Créteil pour l'exposition Anne Frank, une histoire d'aujourd'hui, proposée à l'espace Jean Ferrat pour le plus grand plaisir de nos camarades de CM2 de l'école Jacques Solom.
Reportage dans mon cartable. Reportage dans mon cartable.
Bonjour à tous les auditeurs.
Nous sommes les CM2A de la classe de Madame Hédin.
De l'école Jacques Solomon.
Nous vous proposons un reportage sur l'exposition d'Anne Frank.
Que nous avons vu à Créteil.
Le lundi 28 mai 2018.
Cette année, nous sommes en CM2.
Nous avons donc travaillé sur la Seconde Guerre mondiale.
Et plus particulièrement
sur le journal d'Anne Frank.
Anne Frank était une jeune fille juive. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a dû vivre cachée et écrit un journal sur cette expérience.
Elle a dû se cacher pour ne pas être déportée
et pour échapper aux nazis.
Elle a donc vécu dans le bureau de son père
où elle a écrit son journal intime.
Anne Frank est née en 1929 et est morte en 1945.
Elle avait donc 15 ans quand elle est morte.
Nous allons maintenant vous lire un extrait du journal d'Anne Frank. Anne Frank est allemande et juive. Son père a quitté l'Allemagne pour aller travailler en Hollande en 1933. Le reste de la famille est venu le rejoindre plus tard. Anne Frank raconte ses journées dans un journal intime.
Notre vie a connu les tensions qu'on imagine, puisque les lois anti-juifs de Hitler n'ont pas épargné les membres de la famille qui étaient restés en Allemagne. En 1938, après les pogroms, mes deux oncles, les frères de maman, ont pris la fuite et se sont retrouvés sains et saufs en Amérique du Nord. Ma grand-mère est venue s'installer chez nous. Elle avait alors 73 ans.
À partir de mai 1940, c'en était fini du bon temps. D'abord la guerre, la capitulation, l'entrée des Allemands et nos misères. À nous les Juifs, ont commencé. Les lois anti-juifs se sont succédées sans interruption et notre liberté de mouvement fut de plus en plus restreinte.
Les Juifs doivent porter l'étoile jaune. Les Juifs doivent rendre leur vélo. Les Juifs n'ont pas le droit de prendre le tram. Les Juifs n'ont pas le droit de circuler en autobus, ni même dans une voiture particulière. Les Juifs ne peuvent faire leurs courses que de 3h à 5h.
Les Juifs ne peuvent aller que chez un coiffeur juif. Les Juifs n'ont pas le droit de sortir dans la rue de 8h du soir à 6h du matin. Les Juifs n'ont pas le droit de fréquenter les théâtres,
les cinémas ou autres lieux de divertissement.
Les Juifs n'ont pas le droit d'aller à la piscine ou de jouer au tennis,
au hockey ou à d'autres sports.
Les Juifs n'ont pas le droit de faire de l'aviron.
Les Juifs ne peuvent pratiquer aucune sorte de sport en public.
Les Juifs n'ont plus le droit de se tenir dans un jardin, chez eux ou chez des amis. Après 8 heures du soir, les Juifs n'ont pas le droit d'entrer chez des chrétiens. Les Juifs doivent fréquenter une école juive, et ainsi de suite. Voilà comment nous vivotions, et il nous était interdit de faire ceci ou de faire cela. Extrait du journal d'Anne Frank, écrit à Amsterdam entre 1942 et 1944. Anne Frank meurt en février ou mars 1945 au camp de Bergen-Belsen en Allemagne, atteinte du typhus.
Et maintenant, place à notre reportage.
Alors on va commencer par l'exposition, si vous voulez bien me suivre. Alors tu disais qu'Anne Frank était une jeune fille juive. Qu'est-ce que c'est être juif? C'est quoi le juif?
C'est une religion.
Mais en fait elle n'était pas de nationalité juive. Elle était allemande, effectivement elle était allemande.
Est-ce qu'Anne Frank avait des amis juifs?
Absolument, Anne Frank avait des amis juifs. C'est une jeune fille très sociale. Elle a rencontré des amis juifs en Allemagne et elle est arrivée en Hollande à l'âge de 5 ans et elle a retrouvé des tas d'amis juifs. Et d'ailleurs, elle, vous le verrez dans le film, elle le dit à un moment qu'elle a honte parce qu'elle est cachée dans la cachette de l'usine et qu'elle sait que beaucoup de ses amis juifs sont déjà partis dans les camps de concentration parce qu'ils sont au courant de tout ce qui se passe malheureusement.
Est-ce que Anne Frank, elle avait des amis autres que juifs?
Bien sûr, au départ en Allemagne, Anne Frank, elle avait des amis de juifs, catholiques, il n'y avait aucun problème. C'était pas des juifs pratiquants, la famille Frank. Ils allaient quasiment jamais à la synagogue. C'était des juifs, ce qu'on appelle des juifs libéraux, c'est-à-dire ils pratiquaient très peu leur religion, à part les grands événements, mais sinon il n'y avait pas du tout de séparation et monsieur et madame Frank ne souhaitaient pas que leur fille soit uniquement dans un milieu juif. Quand elle était dans l'école Montessori, il y avait des enfants non juifs et ça ne posait aucun problème, ni à Anne, ni à ses parents.
Son tonton et sa tata, comme ils sont partis, mais comment ils sont morts?
La majorité des gens, on le verra dans le film, la majorité des gens sont morts soit pendant le voyage, soit gazés dans les camps, soit ils mouraient de faim, soit ils mouraient de maladie, soit ils mouraient parce qu'ils étaient épuisés. Par exemple, on leur faisait casser des cailloux en plein hiver ou en plein été et on leur faisait manger un bol d'eau chaude avec 2-3 éplucheurs de pommes de terre dedans. Donc tu imagines, le corps, au bout d'un moment, il ne résiste plus. Donc en fait, ils mouraient d'épuisement et ceux qui ne mouraient pas d'épuisement, ils étaient gazés dans les chambres à gaz.
Anne Frank, elle avait deux tontons qui sont partis en Amérique du Nord. Est-ce que ces tontons, ils sont revenus en Allemagne ou autre part?
Alors ça, je n'en sais rien. Je sais qu'elle a de la famille qui est partie en Amérique du Nord. En général, les gens ne revenaient pas en Allemagne. En général, les gens restaient, se sont intégrés dans le pays où ils étaient, soit en Argentine, soit en Amérique du Nord. Je pense que très peu ont voulu revenir, soit en Allemagne, soit en Pologne, parce que c'était trop dur pour eux de revenir dans le pays qui les avait qu'elle les avait tués ou qui les avait fait souffrir. Certains reviennent, même encore maintenant, il y en a très peu, mais certains reviennent mais pour des événements particuliers, mais en règle générale, ils n'ont pas eu souvent l'envie ou le courage de revenir habiter dans un pays où ils ont trouvé la mort et la tristesse et la famine.
Est-ce que Anne Frank, en fait, son journal, est en bon état ?
Alors, le journal d'Anne Frank est en bon état, c'est vrai que je ne vous en ai pas encore parlé. Une fois que le nazi les a arrêtés, il a complètement, avec ses militaires, avec ses soldats, ils ont complètement détruit l'annexe pour chercher, en fait, tout ce qui les intéressait, c'était l'argent, l'or, des produits précieux. Ils ont tout abîmé, comme font les voleurs souvent, et ils ont balancé le journal par terre. Et c'est Mip qui, quelques jours après, a eu le courage, l'envie de revenir dans l'annexe, et elle a trouvé le journal, elle l'a confié au papa d'Anne Frank. Le papa d'Anne Frank n'a pas pu l'ouvrir, tellement il était bouleversé, parce que lui, il pensait que sa fille, elle était encore en vie. Il a fallu du temps pour qu'on lui dise que sa femme, ses deux filles étaient mortes, et que ses amis Pels étaient morts. Et à un moment, il s'est décidé à ouvrir ce journal, et c'est là qu'il a compris qui était sa fille, ses talents, parce que elle avait beau avoir 13 ans, c'était un vrai écrivain. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est dit, il faut que j'en fasse quelque chose. Et donc, il a commencé à faire publier le journal d'Anne Frank et à ouvrir. Vous m'avez demandé où se trouve le journal. Le journal se trouve toujours à Amsterdam, toujours dans l'annexe. Et il y a des gens qui visitent 24 heures sur 24, presque, 365 jours sur 365, des heures de queue. Moi-même, j'ai voulu y aller il y a quelques temps, mais il fallait faire genre 3 heures de queue pour pouvoir rentrer dedans. Il y a des gens de tous les âges et c'est extraordinaire qu'aujourd'hui encore, on ait ce journal. Puis après, ça a été publié en plein de langues, traduit, commenté, etc. C'est un des livres le plus lu dans le monde.
Qu'est-ce qu'on voit sur cette photo ?
Anne s'est cachée ?
Oui, la cachette. Donc ça, c'est le plan de l'annexe. Quelqu'un veut bien lire les noms des habitants de la cachette ? Alors,
Otto Frank, Eddie Frank Hollandais, Margot Frank, Anna Frank, Herman Van Pels, ouais. Auguste Van Pels, Rogen, ouais. Peter Van Pel, ouais. Et Fritz
Pfeiffer. Donc ça, ce sont les
8
habitants de la cachette. Alors vous avez vu que ils sont partis un peu rapidement. Margot est partie avec Mip, elles sont parties en vélo. Le reste de la famille, comment on fait pour déménager sans que les voisins le remarquent ? Est-ce qu'on peut partir avec des grosses valises ?
Non,
alors comment ils ont fait pour emmener des affaires ?
En fait, ils ont pris les objets qui étaient le plus précieux, ils les ont mis soit dans leur manteau, soit dans leur... Parce que leur père avait une petite sac à dos, on va dire, ouais. Ils ont mis dans le sac à dos.
Et les vêtements, comment ils ont fait pour les emmener ? À votre avis, si on veut emmener beaucoup de vêtements et qu'on ne les met pas dans un sac, comment on fait ?
On les met sur eux.
Ouais, on les met sur soi. Donc, je sais pas moi, 10 culottes, 4 paires de chaussettes, 5 t-shirts, 3 pulls, 2 pantalons. Comment vous imaginez, est-ce que vous vous imaginez comment on peut vivre pendant 2 ans dans une maison, sans sortir de la maison, sans télé, sans internet, sans téléphone, sans les réseaux sociaux, sans la musique, sans rien?
Surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas ça.
Ouais. Mais il y avait d'autres choses. Donc, sans jouer, sans aller à la piscine, sans faire du vélo, sans voir les copains, les copines, qu'est-ce qui l'aidait, Anne, à vivre ?
À écrire dans son journal intime.
Donc, quelques mois avant, après le débarquement, et quelques mois avant la fin de la guerre, toute la famille va être dénoncée. Et donc, ils vont partir d'abord dans ce qu'on appelle un camp de transit, avant d'être emmenés dans les camps de concentration et d'extermination. Est-ce que vous connaissez la différence ?
Camp de concentration, on travaille, ouais. Et camp d'extermination, on les tue immédiatement. Ouais.
Alors, on pouvait mourir aussi dans le camp de concentration. De quoi on mourait dans le camp de concentration ?
De fatigue, et surtout qu'ils ne donnaient pas assez à manger. Et par exemple, quand ils étaient blessés, ben, on ne les soignait pas.
Ouais. Quelle maladie y avait beaucoup dans les camps ?
C'est la même maladie que Margot est morte.
Ouais, le ti.
L'utinus ?
Non, c'est pas loin. Le typhus.
Le typhus ?
Ouais. Bah, t'étais proche, hein. Okay. Tinus, typhus, ça ressemble, hein. Comment on l'attrape, le typhus ? Tu sais ? Vas-y.
C'est un microbe ?
Non.
Quand on est trop épuisé ?
Épuisé, puis c'est les poux, en fait. C'est toutes les bestioles qu'il y avait dans le lit, dans les matelas, et surtout les poux. Alors, donc, toute la famille va partir, là. Tout ça, c'est les photos de ce qu'on appelle les déportations dans les trains. Je vous ai vu pendant la vidéo, quand ils ont dit un voyage de 3 jours, sans manger et sans boire, il y en a beaucoup qui ont fait ah ! Ouais, pourquoi ? Pourquoi ?
Parce que quand on mange pas et qu'on boit pas, bah on peut mourir.
Au bout de combien de jours on meurt sans boire ?
3 jours.
Et 3-4 jours, après ça dépend si on est un enfant ou un adulte. Sans manger, on peut tenir combien de temps si on est un adulte ? Adulte, oui, 30-40 jours, sans problème. Bon, on est maigre après. Mais les voyages en train, beaucoup de gens mouraient dans les wagons parce qu'il n'y avait pas d'air pour respirer, parce qu'il n'y avait pas à boire, parce qu'il n'y avait pas à manger, parce qu'ils étaient malades, parce qu'ils étaient fatigués.
Ça nous a apporté plus de documents parce que quand on travaillait avec la maîtresse, ce n'était pas approfondi.
Oui.
On a appris beaucoup plus de choses sur Anne Frank.
Oui. Si vous deviez en tirer une leçon, entre guillemets...
Que c'est trop triste.
Trop triste, oui.
C'est de l'injustice.
C'est injuste, oui.
C'est un petit peu émouvant.
C'est émouvant.
Cette exposition était magnifique.
Cette exposition était fabuleuse.
Ce qui m'a le plus touchée, c'est quand les enfants ont été déportés. Nous avons vu des photos sur lesquelles les enfants étaient attachés et emprisonnés dans des sortes de wagons. Ils étaient 3 jours enfermés et debout, ils ne pouvaient pas s'asseoir, ils ne pouvaient rien faire et des fois il y avait des enfants qui mouraient pendant le trajet.
Ce qui m'a le plus choqué, c'est d'apprendre qu'Hitler a voulu s'emparer de beaucoup de pays pour faire régner sa loi. J'ai appris cela en lisant les panneaux explicatifs à l'exposition d'Anne Frank.
Je n'ai pas compris pourquoi les nazis ont voulu se débarrasser de tous les juifs.
Moi, ce qui m'a plus touché, c'est dans les douches toxiques, quand les nazis disaient aux juifs de prendre une douche et après ils leur mettaient du gaz toxique pour qu'ils soient morts plus vite.
J'ai vu ça sur les toiles de l'exposition.
On a vu le carnet d'Anne Frank sur lequel elle a écrit son histoire. Le père d'Anne Frank a offert à sa fille un carnet à l'âge de ses 13 ans. Anne Frank a écrit pendant 2 ans sur son journal intime. Elle le considérait comme sa meilleure amie. Elle lui a même donné un prénom. Elle l'a nommé Kitty.
Ce qui m'a touchée, c'est les employés de Otto, le père d'Anne Frank, qui ont pris un énorme risque pour cacher sa famille. Ils ont donc aidé la famille d'Anne Frank à se cacher d'Hitler et des nazis en construisant une annexe derrière une bibliothèque.
Anne Frank montre peu ses sentiments. Mais quand elle écrit, c'est une autre fille.
Ce qui m'a choqué, c'est d'apprendre que Hitler a fait une loi que les juifs ne pouvaient pas rentrer partout, à la piscine et au parc.
Ce qui m'a touché, c'est la mort d'Anne Frank. Anne Frank reste cachée pendant 2 ans. Puis elle vit dans des camps de concentration pendant 7 mois. Et meurt 2 mois avant la libération.
Ce qui m'a le plus émue, c'est la secrétaire de Monsieur Otto, parce que c'est grâce à elle que le journal d'Anne Frank est disponible maintenant. Et parce que maintenant, sinon, on ne l'aurait plus jamais retrouvé.
J'ai trouvé que c'était vraiment idiot de fusiller les gens qui n'étaient pas d'accord avec Hitler.
La chose qui m'a le plus étonnée, c'est quand la nuit du 9 novembre 1938, plus de 1600 synagogues ont été explosées par les nazis.
Cartable. écoles d'Ivry. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Vous allez écouter l'émission Bibliomanie, aujourd'hui présentée par Valère Marie Marchand. Cette émission est consacrée à Noël Châtelet, qui vient de publier aux éditions Robert Laffont « À l'école des filles », un récit autobiographique particulièrement poignant sur les 8 années qu'elle a passées en pensionnat. On pourrait aussi parler ici d'un récit d'apprentissage ou de l'itinéraire d'une enfant rebelle qui du jour au lendemain passe d'un certain confort familial à l'inconfort de la vie en internat. Être interne, ce fut d'abord pour Noël Châtelet revêtir l'uniforme, puis résister de toutes ses forces à l'uniformité ambiante et à l'uniformisation programmée de son être futur. C'est d'ailleurs en sociologue de l'intime que Noël Châtelet décrit cet entre-deux qu'on appelle l'adolescence, ce chemin vers son propre corps et vers l'émancipation de soi. Car, à l'école de la vie, tout est encore à apprendre et il y a parfois beaucoup de maturité dans l'immaturité, beaucoup d'étapes à franchir avant d'assumer ses propres désirs, beaucoup d'écueils à éviter avant de concilier sa part de féminité et sa part de masculinité. On retrouve dans ce récit l'intrépidité de ces jeunes années où tout est encore possible et où l'on n'en finit pas de naître à soi-même. Un bel éloge du désir de vivre, du désir tout court et de l'altérité que je vous laisse découvrir en compagnie de Noël Châtelet. Noël Châtelet, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de publier aux éditions Robert Laffont, à l'école des filles. Donc c'est votre nouveau livre. Il n'y a pas de genre indiqué en couverture. Est-ce un roman, est-ce un récit? Ça, nous allons voir en cours de conversation. Et j'ai l'impression que ce livre, enfin il y a un mot qui me vient d'abord à l'esprit quand je vous ai lu. C'est un mot un peu de conte de fées.
Non.
C'est le mot métamorphose.
Ah, alors là, vous touchez du doigt quelque chose d'important pour moi. Si j'avais à donner un titre à tout mon travail depuis plus de 50 ans autour du corps, j'appellerais ça métamorphose. Le terme a déjà été utilisé, vous savez, en littérature, mais peut-être sous cette forme-là, ça passerait. Et c'est vrai que depuis toutes ces années, c'est bien les métamorphoses du corps qui m'intéressent, et surtout ces moments essentiels où le corps et la psyché sont en dialogue. Mais dans un dialogue particulièrement intense, et j'ai privilégié évidemment, parmi toutes ces métamorphoses, celle qui concerne les basculements, où les changements du corps, naturels ou violents, obligent la psyché à réfléchir à ce qui se passe. Voilà. Et ils le font ensemble. Cette réflexion, elle a lieu à deux. Et après, à moi, de choisir la meilleure façon de rendre compte pour les lecteurs de ce dialogue si étonnant et qui est au fond le dialogue de l'humanité.
Ce mot métamorphose, métamorphosis, et je pense aussi à un autre mot, le mot chrysalide, parce que j'ai l'impression que votre narratrice, c'est vous bien sûr, mais vos personnages en général dans votre œuvre sortent de leur chrysalide. J'ai un peu cette image là.
Oui, puisqu'il s'agit de basculement, donc de naissance.